RFI 13h ici à Paris, une heure de moins en temps universel. Le grand journal de la mi-journée avec vous, Florent Guignard, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous. À la une, la Nouvelle-Orléans et les États-Unis sous le choc 24 heures après l'attentat attribué à un ressortissant américain qui aurait fait allégeance à l'État islamique. Dans ce journal, on s'arrêtera notamment sur la polémique en train de naître là-bas. Cet attentat aurait peut-être pu être évité. Également dans l'actualité aujourd'hui, la première visite à l'étranger du nouveau chef de la diplomatie syrienne en Arabie Saoudite. On parlera aussi du bras de fer entre la police sud-coréenne et le président destitué pour avoir voulu instaurer l'état d'urgence. À suivre encore des histoires de loutres sur la côte ouest des États-Unis, les ennuis du Barça qui perd son meneur de jeu.
Les États-Unis, 24 heures après l'attentat de la Nouvelle-Orléans.
Un pays sous le choc, d'abord à cause du bilan, 15 morts et une trentaine de blessés, à cause aussi des scènes d'horreur semées par le terroriste dans les rues bondées du quartier français de la Nouvelle-Orléans cette nuit du réveillon, quand il a foncé sur la foule au volant de sa voiture. Le choc enfin après la découverte d'un drapeau de l'État islamique à l'arrière du véhicule conduit par un Américain de 42 ans, ancien soldat de l'armée de terre. Alors cet attentat, il rappelle celui de Nice en France et il pose beaucoup de questions depuis hier. Et celle-ci, dans la tête de nombreux Américains, cet attentat aurait-il pu être évité? Le dispositif de sécurité, Daniel Valo, était de toute évidence inadapté.
Oui, avec cette question, comment un véhicule a-t-il pu rouler dans ce périmètre piéton qui est normalement interdit aux voitures en cas de forte affluence? Et une polémique sur les bornes installées à l'entrée du quartier français, justement pour empêcher ce genre de drame. Des bornes amovibles que la Nouvelle-Orléans avait mises en place en 2017 à la suite de l'attentat de Nice en France, qui avait fait plus de 80 morts l'année précédente. Les autorités ont reconnu que ces bornes ne fonctionnaient pas, qu'elles étaient régulièrement bloquées et que des travaux étaient en cours pour les remplacer. Les travaux devaient être achevés dans un mois pour le Super Bowl, comme l'a reconnu hier soir la maire de la Nouvelle-Orléans, Latoya Cantrell.
La Nouvelle-Orléans doit accueillir le Super Bowl cette année. C'était l'occasion d'améliorer nos infrastructures pour cet événement sportif majeur. Donc, les bornes n'étaient pas opérantes parce qu'elles sont sur le point d'être remplacées et elles devaient l'être bien sûr d'ici au Super Bowl.
Alors pour suppléer à ces bornes inopérantes, la police de la Nouvelle-Orléans avait posté des véhicules et des barrières pour sécuriser le quartier, mais le conducteur du camion a pu contourner ce dispositif en roulant sur le trottoir. Pour la chef de la police locale, même si les bornes avaient fonctionné, cela n'aurait donc pas empêché le drame. Nous reconnaissons que nous avons un problème, mais nous allons le résoudre, a conclu hier soir le gouverneur de Louisiane. Outre le Super Bowl le mois prochain, les autorités s'inquiètent pour le carnaval qui aura lieu début mars et qui attire tous les ans, évidemment, énormément de touristes dans les rues de la Nouvelle-Orléans.
Daniel Valo du service international de RFI.
Et Florent Désir, le président sortant, Joe Biden a lui pris la parole.
Et notamment pour poser la question que se posent les enquêteurs. Y a-t-il un lien entre cette attaque de la Nouvelle-Orléans et l'explosion le même jour d'une voiture devant un hôtel de Las Vegas, un hôtel appartenant à Donald Trump? Beaucoup de questions, vous le voyez. Une ville, la Nouvelle-Orléans, qui s'inquiète désormais pour sa réputation. Daniel Valo nous le disait il y a un instant, la Nouvelle-Orléans accueille de très nombreux touristes. Voici le témoignage d'une guide touristique, Muriel Aveline, guide donc à la Nouvelle-Orléans.
Personne ne s'attendait à un scénario du genre Nice, ce fameux 14 juillet, et tout le monde est sous le choc là et n'en revient pas, quoi. On n'a pas besoin de ça parce que la ville vit beaucoup du tourisme et des congrès, etc. Donc, ça donne une mauvaise image dans le reste des États-Unis et un peu dans le reste du monde. Dans la mentalité des touristes, notamment américains, c'est une des villes comme Las Vegas où on vient faire la fête, et notamment dans la rue Bourbon. Les gens viennent ici pour s'amuser, oui, pour passer du bon temps. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de ça.
Muriel Aveline, guide touristique à la Nouvelle-Orléans avec Michael Ponge.
Et après cette édition, nous reviendrons sur la menace terroriste aux États-Unis avec notre invité Alain Rodier, ancien officier supérieur des renseignements extérieurs et directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. Mais pour l'heure, la suite de votre journal et ce naufrage de migrants au large de la Tunisie.
C'était la nuit du réveillon. Deux bateaux ont coulé au large de Sfax. 83 personnes ont pu être secourues, mais 27 corps ont été repêchés. Ces migrants venaient tous d'Afrique subsaharienne dans l'espoir de rejoindre l'Europe.
Et dans la bande de Gaza, 28 morts de plus en 24 heures.
Et notamment 11 morts dans une frappe sur un village de tentes qui accueillait des déplacés de la guerre que mène Israël dans la bande de Gaza. Parmi les victimes, selon la défense civile palestinienne, le chef de la police du Hamas, ainsi que 3 enfants et 2 femmes. En Cisjordanie, l'autorité palestinienne imite le gouvernement israélien en ordonnant la suspension d'Al Jazeera, la chaîne de télévision du Qatar, accusée d'incitation à la sédition et d'ingérence dans les affaires palestiniennes. Le Hamas, l'adversaire politique de l'autorité palestinienne, dénonce, je cite, une violation flagrante de la liberté de la presse.
En Syrie, cette fois, une opération des forces de sécurité dans la ville de Homs.
À la recherche d'anciens dignitaires du régime, des criminels de guerre et des personnes impliquées dans des crimes qui ont refusé de remettre leurs armes, selon le nouveau pouvoir en place à Damas depuis la chute de Bachar el-Assad. Ce nouveau pouvoir, il multiplie les contacts diplomatiques et le nouveau chef de la diplomatie syrienne a réservé son premier déplacement à l'étranger en Arabie Saoudite, Nicolas Falaise, et ce n'est pas un hasard.
Oui, le tout nouveau chef de la diplomatie syrienne parle d'un pays frère à propos de l'Arabie Saoudite. Richissime monarchie pétrolière, principale puissance du monde arabe sunnite, le royaume saoudien est un interlocuteur incontournable pour les nouveaux dirigeants syriens. Un géant régional dont la position vis-à-vis de la Syrie a évolué ces dernières années. Riyad a d'abord soutenu la rébellion syrienne, y compris la rébellion armée, avant de se résoudre en 2023 à rétablir les liens avec Bachar el-Assad. On voit bien alors aujourd'hui l'intérêt de chacun à bâtir une relation solide pour une nouvelle Syrie en quête de légitimité comme de respectabilité et dont les besoins sont immenses en termes de reconstruction et d'investissement. Intérêt pour l'Arabie Saoudite également. Il y a quelques semaines encore, la Syrie s'inscrivait dans le camp des alliés de l'Iran, qui reste le grand rival régional de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, l'influence régionale de Riyad peut s'étendre jusqu'à Damas. C'est l'une des facettes de la recomposition qui fait suite à la chute du régime de Bachar el-Assad.
Nicolas Falaise.
À la une également, ces nouvelles frappes russes qui ont fait un mort en Ukraine.
Des frappes dans la région de Zaporijia, près de la ligne de front dans le sud de l'Ukraine. Et puis en marge de cette guerre, après la rupture d'un câble électrique sous-marin en mer Baltique entre la Finlande et l'Estonie, on soupçonne un sabotage. Et bien les autorités inspectent un pétrolier mis en cause, un bateau qui pourrait appartenir à la flotte fantôme russe pour transporter du pétrole visé par les sanctions occidentales.
En Corée du Sud, le président déchu fait de la résistance.
Oui, il s'est barricadé dans la résidence présidentielle depuis sa destitution par le Parlement. Il est visé par un mandat d'arrêt, mais il refuse de se rendre aux convocations de la police. Mais Yoon Suk-yeol n'est peut-être pas si isolé que cela. Il a publié sur YouTube une vidéo sur laquelle s'est penché Nicolas Roca pour comprendre qui étaient les soutiens conservateurs du président.
La Corée du Nord et des forces obscures menacent l'État sud-coréen et sont à l'origine de la chute du président. Un discours complotiste véhiculé par des youtubeurs suivis par des millions de sud-coréens et prêts à défendre jusqu'au bout Yoon Suk-yeol.
Ce pays est en train d'être volé par la Chine. Nos droits de vote se font voler par la Chine. Et maintenant, ils vont nous enlever notre président.
Avec ses 1,6 million d'abonnés sur YouTube, Shin-hye-sik est l'une des stars des ultra-conservateurs.
Pourquoi il y a des Chinois durant les rassemblements pour demander la destitution du président? Le Parti démocrate et les milieux politiques essaient de trouver comment donner toujours plus aux Chinois.
Ces groupes, soutenus par les églises évangéliques, portent un discours viscéralement anticommuniste, antiféministe, contre les minorités sexuelles et les étrangers. Des thèmes repris par Yoon Suk-yeol. Hier, son avocat, Suk Dong-yeon, est même venu haranguer la foule en son nom.
Il m'a demandé de saluer comme il se doit tous ceux d'entre vous qui essayent de protéger le président.
Un jusqu'au boutisme qui séduit les ultra-conservateurs, mais pas l'opinion publique. Selon un sondage du Chung-Hang Il-bo, un grand quotidien de centre-droit, plus de deux tiers des Sud-Coréens estiment que la déclaration de la loi martiale par le président constitue un acte de rébellion.
À 13h10 ici à Paris, dans moins de 5 minutes, on retrouvera le journal des sports. Mais avant ça, d'ores et déjà, on prend la direction de Barcelone.
Pour prendre des nouvelles du Barça et de mauvaises nouvelles d'ailleurs pour le club de foot espagnol, privé du meneur de jeu Dani Olmo qui avait été transféré l'été dernier pour la modeste somme de 55 millions d'euros. Olmo ne peut plus jouer. Un beau gâchis, Nicolas Feldman, provoqué par le fameux fair play financier.
Oui, tout simplement parce qu'en Espagne, les règles, elles sont claires. Un club ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Le FC Barcelone, comme les autres équipes, dispose donc chaque saison d'une enveloppe maximale à dépenser pour pouvoir dans le même temps payer les salaires des joueurs ou du staff. Sauf qu'avec le recrutement cet été de Dani Olmo, eh bien le FC Barcelone a largement dépassé le plafond autorisé. Résultat, hier, la sanction est tombée puisque la Ligue de foot espagnole a tout simplement annulé la licence de Dani Olmo ainsi que celle d'un autre joueur du Barça, l'attaquant Pau Victor.
Alors Nicolas, est-ce que ça veut dire qu'on ne verra plus Dani Olmo avec le maillot du Barça cette saison ?
En tout cas, le règlement de la Fédération espagnole, là aussi, il est très clair. Un joueur dont la licence a été annulée ne peut pas en obtenir de nouvelles dans le même club et au cours de la même saison. Alors le Barça s'active tout de même pour revenir dans les clous et tout faire pour aligner son milieu de terrain dès la reprise, mais sans solution, eh bien Dani Olmo pourrait dès cet hiver quitter le FC Barcelone libre avec en prime la totalité de son salaire versé jusqu'à la fin de son contrat, soit 263 millions d'euros. Voilà qui ne devrait pas arranger les finances du FC Barcelone déjà criblées de dettes.
En revanche, qui pourrait faire du bien aux finances de Dani Olmo. Merci Nicolas Feldman.
Vous nous l'annoncez en titre, une histoire de loutre dans ce journal.
Oui, une histoire de loutre de mer. Vous voyez, hein, ces petits mammifères poilus qu'on voit souvent sur le dos faire la planche. Les couples se tiennent souvent la patte pour ne pas se perdre pendant leur sommeil. Mais les loutres, elles ne se contentent pas de faire la planche, elles mangent aussi des crabes verts d'Europe. C'est une espèce invasive sur toute la côte ouest des États-Unis, une espèce qui menace d'ailleurs les écosystèmes. Et les scientifiques se sont rendus compte que les loutres, bien plus que toute autre méthode coûteuse, étaient les meilleurs alliés pour lutter contre la prolifération de ces crabes, Stéphanie Schuller.
Si Elkhorn's Lough est bien moins envahi par les crabes verts que le reste de la côte pacifique américaine, c'est parce que cette réserve naturelle en Californie abrite un groupe de 120 loutres de mer. Ces mammifères se nourrissent de coquillages et de crustacés, et le crabe vert fait partie de leur repas préféré. Le groupe en avale jusqu'à 120 000 par an. C'est le décompte d'un groupe de scientifiques internationaux qui a constaté des bénéfices étonnants sur l'écosystème de la réserve. Avec moins de crabes verts dans l'eau, une espèce d'escargot de mer, qui est leur proie principale, peut se développer normalement. Ces escargots mangent à leur tour les algues qui empêchaient la lumière du soleil d'atteindre les herbiers marins. Désormais, ces prairies solo se portent mieux et servent de nouveau de refuge aux poissons juvéniles et de nourriture aux oiseaux migrateurs. Chassés pour leur fourrure au XVIIIe et XIXe siècle, les loutres de mer ont failli disparaître. Il n'existe plus que 3000 individus en Californie. Mais depuis la publication de cette étude, les autorités envisagent la réintroduction des loutres de mer sur toute la côte ouest américaine.
Stéphanie Schuller, et puis deux mots dans l'actualité politique française.
Le projet de loi pour Mayotte après le passage du cyclone, projet de loi d'urgence, ne sera finalement présenté en Conseil des ministres que la semaine prochaine. Et puis un ministre en déplacement, le premier de l'année, Gérald Darmanin, aujourd'hui ministre de la Justice, est à Marseille. Mais à Marseille, plutôt que de parler de Gérald, on va plutôt parler de Marius, le personnage de Marcel Pagnol, dont les rêves de liberté ont inspiré des détenus de la prison d'Arles, une troupe aujourd'hui libre et en tournée pendant un an, Muriel Mahalouf.
Marius rêve de prendre le large, de tourner le dos au chemin tout tracé, de reprendre la boulangerie de son père à Marseille et d'épouser son amour Fanny.
L'énorme volet australien qui est là depuis une semaine. Et je connais le mec qui recrute. C'était toujours partant, on part 6 mois faire une série de croisières dans le sud.
Ah, comment je fais, moi ? Avec la boulangerie, mon père ?
Mais t'as vu le bateau que c'est ? Tu vis ton rêve, mon vieux.
Ce rêve de liberté de Marius, les anciens détenus de la prison d'Arles l'ont embrassé à bras-le-corps. Sur scène, six gaillards, six corps d'hommes qui ont connu la détention, racontent dans leur chair le désir de liberté. Joël Pommerat a adapté le récit de Marcel Pagnol avec Jean Ruimi, qui joue le rôle de César, le père. Ils ont écrit une pièce pleine d'humour, d'où jaillissent des cris pour la vie. Rester, c'est mourir pour Marius. Jean Ruimi.
Vous savez, c'est les paroles qu'on entend dans les prisons. Je meurs, le mouroir. Le mouroir, c'est quoi? C'est mourir en prison. C'est pour ça que je voulais faire cette pièce avec Joël, parce qu'il y avait cette liberté qui nous donnait envie de voir plus loin, quoi.
Joël Pommerat, connu pour ses mises en scène oniriques, a conçu cette fois une pièce classique dans un décor réaliste. Sa force, ce sont les acteurs pour qui le théâtre est une forme de survie.
Allez, ni Marius, ni César, ni Fanny, mais Simon Bourtembourg pour la suite des RFI Midi.
Et Florent Guignard pour le journal. Merci à vous. Après ce journal, donc dans quelques minutes, notre invité, ce sera Alain Rodier, ancien officier supérieur des renseignements extérieurs et directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. Nous reviendrons sur la menace terroriste qui pèse aux États-Unis après l'attaque à la voiture Bélier la nuit du Nouvel An en Nouvelle-Orléans. Mais avant ça, les sports. Journal des sports avec vous, Florence Valmet, bonjour.
Bonjour Simon.
Et le football italien en mode Supercoupe ce jeudi. Demi-finale de cette compétition délocalisée à Riyad en Arabie Saoudite.
Et ce sont les deux équipes les plus en forme actuellement qui s'affrontent aujourd'hui. L'Inter Milan a pour adversaire l'Atalanta Bergame. L'Inter Milan, champion d'Italie en titre, invaincu depuis 13 rencontres en championnat, troisième au classement et qui a remporté les trois dernières éditions de cette Supercoupe. De son côté, l'Atalanta Bergame est le leader surprise de la Serie A cette saison. Cela promet donc un joli spectacle entre les deux clubs lombards. Simone Inzaghi, l'entraîneur italien des Milanais, sait que son équipe aura fort à faire face au nouveau cadre du foot italien.
S'affrontano due squadre che stanno avendo un grandissimo percorso.
Les deux équipes qui se rencontrent aujourd'hui sont en train de faire une grande saison, en Serie A comme en Ligue des Champions. La grande réussite de l'Atalanta, hormis avoir remporté la Ligue Europa la saison dernière, ce qui est évidemment une performance incroyable, c'est qu'ils ne sont plus vraiment l'équipe surprise. Cela fait plusieurs années qu'ils sont au top dans toutes les compétitions, donc ce sera un match difficile pour nous. C'est toujours le cas contre l'Atalanta. On devra être à notre meilleur niveau contre un adversaire très en forme.
La DA qui vise un troisième trophée après la Coupe d'Italie et la Ligue Europa. Inter Milan, Atalanta Bergame, demi-finale de la Supercoupe d'Italie à suivre dès 19h TU. Demain, l'autre demi-finale opposera la Juventus Turin à l'AC Milan, vice-champion d'Italie.
Florence, un mot de basket. Monaco et l'ASVEL attaquent 2025 sur les parquets d'Euroleague pour le compte de la 19e journée.
Monaco, actuel leader, joue en Allemagne face à la Lanterne Rouge, l'Alba Berlin. La Roca Team, équipe en forme du moment, est sur un bilan de 6 victoires lors des 8 dernières rencontres. Seulement 3 succès pour les Allemands depuis le début de la compétition. L'ASVEL, mal embarqué avec une 15e place, accueille l'Olympia Milan à 3 longueurs devant. Les Lyonnais, battus lors du match aller, comptent 8 succès pour 10 défaites et auront l'envie de débuter l'année sur une bonne note. Autre objectif, se rapprocher de la 10e place, la dernière qualificative pour les play-ins, c'est-à-dire la phase finale de la compétition. Les deux matchs sont programmés à 19h TU.
Passons à présent des parquets de basket au cours de tennis. Deux joueurs français étaient alignés cette nuit à l'ATP 250 de Brisbane en Australie.
Un tournoi en guise de préparation avant l'Open d'Australie qui débute le 12 janvier prochain. Pas de miracle pour Gaël Monfils, opposé à la tête de série numéro 1 et 7e mondial Novak Djokovic. Le Serbe s'est facilement imposé en 2-7. Belle performance en revanche pour une des pépites du tennis français. Giovanni Pecci-Péricard démarre très bien sa saison. Il se qualifie en quart de finale en battant l'Américain Frances Tiafo en 2-7, deux jours après avoir gâché le retour de Nick Kyrgios. Le joueur de 21 ans impressionne toujours par sa puissance au service, 56 aces en deux matchs. Après une année 2024 où il s'était hissé de la 205e place mondiale à la 31e, le Lyonnais, heureux de sa performance, reste ambitieux pour 2025.
De très bons matchs contre de très bons joueurs. Je pense que j'ai appliqué le plan du début à la fin. C'était vraiment de mettre de la pression et d'être vraiment consistant sur mes retours en deuxième balle. Et ça a marché et je trouve que je peux être fier de moi sur ces deux matchs-là. Je suis concentré sur 2025, sur ce que je peux améliorer dans mon jeu, ce que je peux apporter un peu plus. Ça va être une saison intéressante. Je vais jouer de plus en plus de matchs sur le circuit. Je vais avoir plus d'expérience, plus de choses à gérer. je pense que je peux être content de pouvoir jouer à ce niveau-là. Et ouais, ça va être une bonne saison, je pense, jusqu'à la fin.
Et en quart de finale, Giovanni Mpeci-Periker sera opposé au Tchèque, Jakub Mensik. Match prévu la nuit prochaine. Chez les femmes, Once Jabeur s'est qualifiée pour les quarts de finale du WTA 500 de Brisbane. La Tunisienne a rencontré une forte opposition de la part de son adversaire, Avanessian, mais s'impose finalement en 3-7. Elle rencontrera la nuit prochaine la Russe Mira Andreeva.
Un journal des sports signé Florence Valmé. Merci à vous. Un vétéran américain inspiré par le groupe État islamique. Voilà le profil de l'homme sur lequel le FBI enquête après l'attaque qui a endeuillé la Nouvelle-Orléans en pleine festivité du Nouvel An. Une voiture a foncé sur la foule. Le bilan fait pour l'heure état de 15 morts et d'une trentaine de blessés. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Alain Rodier, ancien officier supérieur des renseignements extérieurs et directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. Bonjour.
Bonjour.
Alain Rodier, pour commettre son acte, l'assaillant qui a été tué par la police a utilisé un pick-up. Comment est-il possible d'éviter de pareilles attaques ?
Mais malheureusement, c'est absolument impossible. Enfin, tous les analystes l'admettent à l'heure actuelle, dans la mesure où cette personne n'avait pas été détectée par les services de sécurité. Mais il faut attendre encore des résultats de l'enquête, parce qu'il semble que ce soit extrêmement compliqué. Il semble que cet individu n'était pas seul. Mais donc, je parle avec beaucoup de précautions, parce qu'il faut attendre la suite. On va découvrir autre chose peut-être derrière. Parce que globalement, ces attaques ont lieu avec des individus qui sont dans le pays déjà. C'est ce qu'on appelle le terrorisme endogène. Et puis, parfois, par des groupes qui sont envoyés de l'extérieur. Mais bon, là, il semble vraiment que c'était du terrorisme endogène. Donc, voilà, c'est extrêmement difficile à empêcher ce type d'action.
Et justement, Alain Rodier, les médias américains dénoncent des failles de sécurité autour de la sécurité du quartier où avaient lieu les festivités. Ici, c'est une voiture qui a donc notamment été utilisée comme une arme. Comment est-ce qu'on peut réellement sécuriser des lieux comme celui qui a été attaqué hier ?
Bon, c'est vrai que ça, c'est la dernière barrière. C'est-à-dire que ça prouve que le renseignement a échoué avant, c'est-à-dire que l'individu n'avait pas été logé par les services de renseignement et ne l'avait pas neutralisé auparavant. Et donc, il a pu passer à l'action. Alors, la dernière barrière, la dernière muraille, c'est la protection, effectivement, des zones fréquentées par le public. Effectivement, il semble que cette rue était mal protégée, qu'il n'y avait pas les barrières nécessaires qui avaient été mises en place. Cela dit, il faut voir l'immensité de la tâche. On ne peut pas protéger toute la foule, surtout lors de festivités donc le Nouvel An. C'est extrêmement difficile. Mais là, c'est vraiment la dernière barrière qui a été franchie.
Et justement, la chef de la police locale de la Nouvelle-Orléans disait que l'assaillant était farouchement déterminé à provoquer un carnage. Quelles peuvent être ses motivations? On le présente inspiré par le groupe État islamique. Au juste, quels sont les relais d'influence de l'État islamique aux États-Unis?
Bon, alors, on le présente... Non, il l'avait lui-même revendiqué auparavant...
Oui, dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, oui.
Et en plus, on en parle peu, mais ce fameux drapeau de l'État islamique, il n'était pas dans la voiture, il était exhibé sur le véhicule. Donc, c'était quelqu'un qui était fondamentalement convaincu de sa bonne foi. Et donc... il faut bien voir que ces gens sont animés par la haine de l'Occident, mais aux États-Unis, ce n'est pas une première. Quelquefois, des gens avaient été infiltrés auparavant, étaient passés à l'action. Je me souviens de cet élève officier qui a tiré sur ses camarades en 2019, si je me rappelle bien. Il y a eu trois morts et une dizaine de blessés. Et c'était un Saoudien et qui était passé à l'action et qui avait bien expliqué lui-même je vous hais et donc c'est pour ça que je veux mourir en martyr. Donc le grand problème C'est l'idéologie qui anime ces personnes et qui leur permet de passer à l'action, parce que pour eux, l'objectif de finir en martyr, c'est leur but ultime.
Mais justement, est-ce qu'on parle ici de l'acte d'un homme isolé en perdition, ou ce serait plutôt... est-ce qu'on peut parler d'une forme de recrutement du groupe État islamique sur le territoire américain, ou ce sont des gens qui sont endoctrinés via des vidéos, des contenus sur les réseaux sociaux notamment ?
Alors, dans ce cas-là, c'est effectivement extrêmement inquiétant, mais il faut, je le disais précédemment, il faut attendre les suites de l'enquête, parce qu'il semble qu'il n'était pas seul. Il n'a pas été seul pour préparer cette opération, c'est pas ce qu'on appelle un loup solitaire, bon, même si cette appellation est un peu galvaudée, il n'aurait pas été seul. Donc je pense que le FBI a des informations qui, pour le moment, ne transpirent pas, parce que s'il n'était pas seul, il faut poursuivre les autres pour les retrouver avant qu'ils repassent à l'action.
Justement, vous le dites, les enquêteurs ne croient pas que l'assaillant soit le seul responsable, mais alors quel pourrait être, si j'ose dire, le profil des complices ? Est-ce qu'il s'agit, selon vous, de personnes qui pourraient être implantées aux États-Unis ?
Oui, d'après ce que je comprends, c'est effectivement une cellule, enfin je m'avance un petit peu, c'est une cellule clandestine, bon, qui a, alors comment elle a été constituée, est-ce qu'elle s'est auto-constituée sur le territoire américain, ou est-ce que ça avait été programmé à l'avance? Bon, il semble plutôt que ça soit la première version qui soit plausible, mais tout est possible. Bon. Par contre, ça souligne une chose, c'est que Daesh existe toujours. On a eu tendance à dire que Daesh avait disparu parce que l'État islamique en lui-même, qui était à cheval sur la Syrie et l'Irak, effectivement avait été vaincu, mais en réalité, Daesh est toujours présent, donc
justement...
en Syrie et en Irak, bien sûr. Mais malheureusement, avec beaucoup d'adeptes qui sont présents à l'étranger.
Justement,
parce que la cause représentée par Daesh est extrêmement attractive pour toutes ces personnes qui haïssent l'Occident. Elle est plus attractive que celle d'Al-Qaïda, par exemple, qui est considérée un petit peu comme... trop traditionnel maintenant.
En un mot, pour clôturer cet entretien, la menace aux États-Unis, elle est principalement djihadiste ?
Mais aux États-Unis, on n'en parle pas trop, ou très moyennement, parce qu'il y a tellement de tueries de masse qui ont eu lieu et qui risquent d'avoir lieu, mais qui sont dues à cette prolifération des armes que l'on connaît, etc. Et donc, en réalité, il n'y a pas énormément de victimes.
Merci.
Il y en a trop.
Merci.
Mais voilà,
on est pris par le temps.
Ça existe dans tout l'Occident à l'heure actuelle.
Merci Alain Rodier. Je vous rappelle, vous êtes ancien officier supérieur des renseignements extérieurs et directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. Merci d'avoir accepté l'invitation de RFI. Nous prenons désormais la direction de Damas et de la Syrie. La Syrie où le nouveau pouvoir œuvre sur les dossiers intérieurs, et ce notamment pour rassurer la communauté internationale. Pour ce faire, le nouveau chef du pouvoir syrien a multiplié les messages d'ouverture, notamment pour les minorités. Le reportage de Mohamed Erami.
Dès son arrivée au palais du peuple situé au sommet du mont Kaïsioun, à l'ouest de Damas, le président de la nouvelle administration syrienne, Ahmed al-Sharaa, n'a cessé de recevoir des délégations officielles et non officielles venant de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Il s'efforce d'envoyer des messages rassurants aux Syriens, affirmant que l'ère de la répression et des libertés est révolue avec le départ de Bachar al-Assad. Ces messages semblent avoir atteint de nombreux Syriens, comme en témoigne un groupe rencontré dans le quartier de Mezé. Ils ont particulièrement apprécié qu'al-Sharaa, malgré ses origines islamiques conservatrices, reçoive une délégation représentant les communautés chrétiennes de Syrie en pleine période des célébrations de Noël et du Nouvel An. On écoute quelques réactions de Syriens interrogés dans les rues de Damas concernant cette politique d'ouverture des nouvelles autorités syriennes.
Nous, Syriens, sommes unis et nos confessions ne font qu'une. Peu importe la diversité de nos confessions, nous resterons un seul peuple. Sous la direction du leader Ahmad al-Sharaa et du conseil dirigeant, nous espérons renforcer notre coopération pour reconstruire la Syrie ensemble.
J'ai le sentiment que le pays se dirige vers une phase de reconstruction, même si ça va prendre du temps. Et ces rencontres prouvent que notre nation sera exempte de toute discrimination.
Sur le plan des relations internationales, les États-Unis, qui réclamaient autrefois la tête d'Ahmed Shara, cherchent aujourd'hui à le courtiser et à le rencontrer. Cela reflète, selon les Syriens comme le jeune Obeid, sa capacité à construire de bonnes relations avec les nations, contrairement à l'ancien régime.
C'est le climat que souhaitent les États-Unis et l'Occident. L'image que présente Al-Shara est satisfaisante pour l'Occident, contrairement à l'ancien régime. Al-Shara est parfaitement conscient de ses objectifs dans ses démarches visant à réconcilier la Syrie avec les différentes nations du monde.
Depuis la chute de Bachar al-Assad, Al-Shara a accueilli des dizaines de délégations issues de la plupart des pays arabes, de l'Union européenne et des voisins de la Syrie. Toutes ont exprimé leur volonté de soutenir économiquement le pays après ces rencontres. Mohamed Eram.